autres voix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui donc pour les autres voix de la presse, nous recevons Mathieu pour lundi matin. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bonjour, donc nous, ce qui nous intéresse en particulier un peu, c'est, on va parler des deux plaintes en diffamation contre lundi matin, mais auparavant, pour situer lundi matin aux auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu depuis quand existe lundi matin et quelle a été un petit peu l'idée de la création du média en ligne ?
Alors bon, c'est une longue histoire, lundi matin ça existe depuis bientôt 11 ans et en gros ça émane d'une volonté d'un grand nombre d'amis, on va dire, d'ouvrir un espace qui permette de faire se retrouver des champs assez différents qui peuvent aller de la science politique à la littérature, à la poésie, à tout ce qu'on veut, que des champs dans lesquels on connaissait plein de gens, on trouvait qu'ils faisaient des choses hyper intéressantes, mais qui en général se retrouvaient jamais aux mêmes endroits, soit parce qu'ils étaient pris dans les milieux universitaires, soit pris dans les milieux littéraires, soit pris dans les milieux militants. Et l'idée, c'était de proposer une espèce d'endroit où ces différentes sensibilités-là, ces différentes modalités d'expression pouvaient se retrouver. Et donc, ça paraît toutes les semaines, tous les lundis matins, plus ou moins selon selon les semaines, mais enfin c'est tous les lundis, mais on est souvent en retard. Et voilà, à chaque fois il y a une dizaine d'articles qui sont des choses qui nous intéressent beaucoup.
Ce n'est pas un site d'actualité, vous réagissez pas directement à l'actualité, c'est plutôt justement de longs articles, un petit peu de critiques, d'approfondissement des sujets, souvent assez énervés.
Ouais, alors nous, on a vraiment jamais voulu faire du journalisme parce que, enfin, ça, c'est jamais trop ce qui nous a intéressé. On n'est pas hors de l'actualité. Il y a très régulièrement des textes qui parlent, très régulièrement. Il y a chaque semaine des textes qui parlent de l'actualité, mais on va dire pas sur le mode journalistique qui consiste à juste exposer des faits et dire voilà, il s'est passé ça hier. L'idée, c'est toujours que ce soit agrémenté d'une analyse minimale des éléments d'analyse qui nous permettent de mieux comprendre le monde plutôt que de juste le raconter quand même.
Alors comment est-ce que vous travaillez ? Est-ce que c'est vous qui sollicitez justement différentes personnes dans différents champs de recherche, de réflexion, ou est-ce que c'est des propositions qui vous sont envoyées spontanément ?
Alors ça dépend vraiment. Au tout début de lundi matin, on sollicitait beaucoup de gens, c'est-à-dire que, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais s'il y avait un soulèvement en Turquie, on allait trouver quelqu'un qu'on connaissait en Turquie pour dire « Ah bah vas-y, raconte-nous ce qui se passe et ce que t'as à en dire ». Et ça, un peu dans tous les champs, on faisait ça, on sollicitait beaucoup de gens. Et bon, maintenant, avec le temps, c'est un peu la grande force de lundi matin, elle émane pas de la rédaction de lundi matin, elle émane du fait qu'on a des complicités et des amitiés très larges, et ce qui fait que, très régulièrement, les gens d'eux-mêmes nous disent « Ah bah tiens, j'ai écrit ça sur tel truc, est-ce que ça vous intéresse ?» Et ensuite, nous, on orchestre ça, on voit ce qu'on publie, ce qu'on publie pas et tout ça. Mais après, ça arrive très régulièrement qu'on cherche, là typiquement en ce moment, il y a des manifestations hyper intéressantes au Maroc. On se démène pour essayer de trouver des liens avec des gens au Maroc qui puissent nous raconter. Enfin, et en l'occurrence, il y a une personne parmi nous qui est partie hier au Maroc pour aller rencontrer des gens là-bas. Et voilà, donc c'est un peu dans les deux sens.
Et donc, comme tu disais, hein, lundi matin, c'est une parution hebdomadaire. Comment se fait un peu la sélection, justement, de ces articles que vous publiez chaque semaine ? Parce qu'on voit qu'il y a un temps de réaction. Donc, est-ce qu'il y a un comité éditorial qui, je ne sais pas, tous les dimanches, par exemple, se réunit et décide de ce qui va être publié dans la lettre du lundi matin ?
C'est exactement ça. Enfin, sauf que c'est pas le dimanche, c'est plutôt parce que éditer les articles, ça prend beaucoup de temps. Mais donc en fait, au fil de la semaine, on arbitre un peu. C'est un travail pas facile parce qu'il y a des moments, il y a des trucs qu'on trouve bien, mais on va se dire que ça recoupe trop d'autres articles déjà publiés. Donc on les publie pas. Pour le coup, c'est à ça que consiste notre travail, c'est à faire ce difficile travail de sélection.
Et donc là, on parle de lundi matin, on parle des articles, de la lettre qui est envoyée chaque lundi. Mais lundi matin, c'est également lundi soir. Donc là, c'est plus des interviews filmées, de la vidéo. Et le lundi matin, c'est également, alors là, apparition complètement irrégulière, il me semble. Il y a eu une parution papier de plusieurs numéros.
Ouais, tout à fait. Alors bon, donc c'est des choses différentes. Donc les lundis soirs, c'est voilà, enfin c'est un des entretiens hebdomadaires. Enfin tous les lundis soirs, on publie un long entretien. Alors les invités sont très variables. On peut inviter autant des chercheurs qui ont sorti un bouquin que là, par exemple, ce lundi, on a accueilli trois personnes qui organisent et participent à la Mad Pride qui aura lieu ce samedi, à savoir une manifestation de gens qui se disent ou pas fous, enfin une manifestation anti-psychiatrique. Donc là, c'est plutôt des enfin voilà, c'est pas des chercheurs, c'est des gens normaux qui se mobilisent sur une cause qui leur est chère. Donc ça, c'est les lundis soirs. Et puis oui, alors l'apparition papier, tout à fait. On a publié sept numéros d'une revue papier. Donc ça, on le fait un peu quand on a le temps. Enfin, nous, on aime beaucoup le papier et on y tient encore, mais bon, c'est très chronophage. Et vu que lundi matin en soi web et prend déjà beaucoup beaucoup de temps, on a un peu de mal à tenir le rythme, mais voilà. Et sinon, en parallèle de ça, on a aussi une maison d'édition et pour l'instant on avait publié trois livres, mais là on en publie quatre à la rentrée, trois après. Enfin là, on lance une vraie activité éditoriale en termes de parution de bouquins.
Et donc comment va être orientée cette ligne éditoriale sur la parution de livres?
Pour les bouquins, bah, vraiment, en gros, nous, enfin, en fait, nous, depuis lundi matin, il y a plein de moments où il y a des gens qui sont pas très connus, qui ont pas de, enfin voilà, qui sont pas des écrivains ou des chercheurs, qui nous envoient des articles et qu'on trouve vraiment hyper hyper bien et où on se dit, ah tiens, c'est vraiment dommage que cette personne-là écrive pas de bouquin. Et donc, bah là, en l'occurrence, on leur propose d'en écrire et voilà. Donc et par ailleurs, nous, on a choisi la version web parce que c'est le truc le plus rapide, le plus pratique, le plus simple, pour avoir une réactivité et pour pouvoir diffuser assez massivement des idées. Mais nous, enfin, nous, à titre personnel, on préfère 1000 fois les livres à Internet. Et donc, cette histoire d'édition papier, c'est aussi une manière d'imposer une temporalité différente. Enfin, ce qui est très frustrant dans lundi matin, c'est que dans lundi matin web, c'est que parfois il y a des articles qu'on trouve super bien et 2 semaines après, ils sont complètement recouverts par les 30 autres articles qu'il y a eu. Et c'est le problème pas que de lundi matin, hein, c'est le problème de l'Internet de manière générale, la surabondance et le flux continu de contenu. Et ça, nous, enfin, ça a des avantages, mais ça a aussi des gros désavantages. Et donc, pour compenser ça, quelque part, on trouve ça bien de proposer des livres qu'on pourra lire encore dans 5 ans ou dans 10 ans, qu'on peut prendre le temps de lire, enfin, voilà, qu'on peut un peu. Enfin, parfois, les idées complexes, enfin, les idées intéressantes sont souvent des idées complexes. Et des idées complexes, en général, il faut un peu de temps pour les assimiler. Et c'est assez peu compatible avec le fait de lire un article en 3 minutes, assis dans le bus ou dans le métro. Et donc, voilà, les livres, ça nous paraît important.
Thank you. Presse, c'est la meilleure émission du monde. Merci, papa. De papa.
Donc, on va venir à un des sujets aussi qui nous interpelle là en ce moment. C'est lundi matin, donc, à deux plaintes en diffamation. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu la situation ? Donc, il y en a deux. Dans une vidéo que vous avez publiée, vous parlez d'une plainte drôle et d'une plainte glauque. Donc, je te laisse le choix de nous parler, de nous
expliquer. Autant commencer par la drôle, mais drôle qui est pas drôle, hein, parce que nous on a cette espèce d'habitude de fanfaronner face à l'adversité et la possible répression, mais bon, en réalité c'est pas si drôle que ça. En gros, alors les deux plaintes sont assez, sont pas complexes à comprendre, mais il faut un petit peu de contexte pour en piger le sens. Donc la première plainte dont je vais parler, c'est une plainte qui a été déposée par une agence d'architecture qui s'appelle Chartier d'Alix. Alors, qui n'est pas exactement une petite agence qui refait des cuisines. Ils ont comme clients AXA, Bouygues. Là, ils refont la tour Montparnasse. Voilà, c'est une très très grosse agence d'architecture. Et il s'avère qu'on a publié il y a un an un article rédigé par un chercheur en architecture qui s'appelle Mathias Rollo, qui est chercheur à l'université et architecte. Et cet article s'intitulait Architecture et Greenwashing. Et le sous-titre, c'était, je ne me rappelle plus, c'est la bétonisation, je ne sais pas quoi, mais grosso modo, dans son article, il l'expliquait en long, en large et en travers, comment cette agence Chartier d'Alix, parmi d'autres, vend une image verte et écolo, alors qu'en réalité, selon lui, il continue de propager du béton absolument partout. Et donc voilà, c'est un article sur greenwashing, le greenwashing dans l'architecture. Et il s'avère que donc cette agence a pas du tout apprécié l'article. Et donc, ils nous ont envoyé une mise en demeure en disant « retirez tout de suite cet article, sinon il y aura des poursuites ». On a évidemment refusé de dépublier l'article parce qu'il nous paraissait tout à fait opportun, important et voilà. Ça participe du débat sur l'architecture et sur du débat écologique de manière générale. Et voilà. Et donc ils ont déposé plainte contre nous l'article leur déplaît énormément. Et alors ce qui est amusant entre guillemets, c'est que le vent tourne pas exactement en leur faveur parce que le milieu de l'architecture s'est déjà pas mal mobilisé. Il y a eu une tribune signée par des centaines d'architectes en disant mais ça va pas, vous êtes complètement marteau, on peut pas poursuivre un autre architecte parce qu'il critique notre travail. Il y a eu plusieurs articles, des éditos de revues d'architecture. Le milieu de l'architecture, qui est un petit milieu que nous par ailleurs on connaît pas du tout, mais disons que oui, il y a un peu, pour l'instant il y a un peu un effet stressant vis-à-vis de Chartier d'Alix parce que si le but c'était que l'article soit pas lu, que le contenu de l'article soit pas diffusé, que les critiques de l'article soient pas diffusées, ça produit plutôt l'effet inverse. Donc ça c'est la première, grosso modo. C'est vraiment une tentative de museler un chercheur. Et accessoirement lundi matin, mais ce qui est visé c'est la recherche critique, quoi. C'est qu'en gros il y a un chercheur qui dit regardez ce qui est fait, c'est pas tout à fait raccord avec ce que les gens racontent et il y a des vrais enjeux écologiques aujourd'hui dans l'architecture et donc un gros acteur privé qui a probablement un gros budget avocat se dit tiens, on va essayer de les faire taire en fait. Donc ça c'est la première. La seconde, qui est que on parle de plainte glauque, donc pour le coup qu'il l'est vraiment. C'est aussi un peu compliqué de bien, enfin c'est encore plus compliqué pardon de bien la piger. Donc en gros, il y a deux ans, il y a un film qui est paru dans les salles, qui s'intitulait Boom Boom, qui était un film sur les gilets jaunes, et donc un film un peu particulier parce que c'était ni fiction ni documentaire, c'est-à-dire que l'autrice filmait les manifestations de gilets jaunes et en même temps dans le film elle mettait en scène son histoire d'amour, un truc comme ça, et au fil du film, qui donc tourne autour de la question de l'amour et du lien entre amour et révolte. Donc ça, il y a ce film. Nous, lundi matin, on publie une recension dithyrambique de ce film où quelqu'un parmi nous va le voir et dit non, c'est super, c'est génial, comment il lit l'amour et la révolte, etc. Nous, on publie cet article-là. À la suite de cet article, il y a des gens qui lisent l'article, qui disent « Ah tiens, je vais aller voir ce boum-boum de Laurie Lassalle », qui donc vont au cinéma. Et parmi eux, il y a une jeune femme qui va donc le voir et qui aperçoit que dans ce film apparaît un jeune homme qui, grosso modo, tient un discours qui consiste à dire, je reviendrai dessus après, mais qui, grosso modo, consiste à dire, ah, nous, les anarchistes, les autonomes, ce qu'on cherche, c'est la puissance dans le fait de baiser beaucoup, enfin, c'est ses termes à lui, et donc il est interrogé sur le thème du microtrottoir. Or, il s'avère que ce jeune homme qui tient ses paroles sur le fait de, sur le rapport entre révolte, puissance et nécessité d'avoir de nombreux rapports sexuels, est accusé par une jeune femme depuis 2 ans avant le film de l'avoir violé. Bon. Et donc, c'est cette jeune femme qui va voir le film, qui tombe sur la tronche de ce gars qu'elle accuse de viol, qui l'entend donc au cinéma tenir ces propos-là et qu'elle trouve évidemment abjecte et plus que problématique. Et donc, cette jeune femme et ses amis décident de rédiger un droit de réponse à la fois à l'article de lundi matin et à ce que ce jeune homme, aux propos que ce jeune homme tient. Et elle nous l'envoie en disant « Voilà, je suis allé voir le film parce que vous en aviez parlé en disant que c'était super. Moi, je n'ai pas trouvé ça super, notamment parce que derrière certaines des paroles qui sont tenues dans ce film, ce qui se cache, en fait, c'est des comportements de d'agresseurs sexuels. Enfin, bon, je ne me rappelle plus les termes précis. » Et donc, elle nous demande si on veut bien diffuser, de publier ce droit de réponse. Nous, donc, on vérifie, on fait un certain nombre de vérifications, dont je ne peux pas trop parler là, comme ça, mais bon, grosso modo, on ne s'assure pas que cette jeune femme a bien été violée, ce dont on n'est absolument pas capable. On n'est pas des officiers de police judiciaire ni des juges, et ça nous va très bien comme ça. Mais on vérifie que ça fait bien 2 ans avant la publication de cet article et 2 ans avant la diffusion du film qu'elle avait accusé ce jeune homme de viol. Et donc que ses amis étaient au courant, que les amis du jeune homme étaient au courant, etc. etc. On a vérifié les échanges qu'elle a eus avec lui, etc. etc. Et donc, nous, ça nous paraît évident que, enfin, nous, encore une fois, on n'est pas là pour se prononcer sur le caractère criminel ou non des accusations qui lui sont portées, mais grosso modo, nous, on s'assure que ces accusations sont bien réelles. Et donc, nous, on relaie sa parole à elle. Par ailleurs, elle précise bien dans leur texte que le jeune homme en question nie les faits et qu'aucune plainte a été déposée contre lui. Donc, nous, on se dit, voilà, les lecteurs, quand ils liront la réaction de ces jeunes femmes, ils sauront aussi en parallèle que lui dit que c'est pas vrai. Et que, par ailleurs, la jeune femme n'a pas déposé plainte. Et donc, ce charmant jeune homme a donc déposé plainte contre lundi matin et contre cette jeune femme, sauf que le texte n'était pas signé. Et donc, nous, en tant que publication, on est co-responsable des propos qu'on publie. Et donc, on a eu l'audience pour ce procès la semaine dernière.
Le 30 septembre, c'est ça ?
Oui, exactement, ouais.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'audience ? Comment vous en êtes ressorti ?
C'était assez intéressant parce qu'en l'occurrence, la jeune femme est venue témoigner pour dire « bah oui, je l'accuse bien de tout ça ». L'avocate de la partie adverse était pour être tout à fait honnête, assez caricatural. C'est qu'elle a commencé sa plaidoirie en disant « c'est me too much ». Quand la jeune femme a témoigné pour expliquer, pour raconter ses accusations de viol, elle a évidemment dit que c'était une menteuse, etc. C'était vraiment une espèce de caricature du déni de toute parole de femme violée qui raconte ce qu'elle a vécu. Et mais après, c'est voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un C'est un débat qui est complexe. Hein. Enfin, nous, on était assez mal à l'aise spontanément de se dire ah tiens, on publie des accusations contre quelqu'un. Enfin, c'est très compliqué en fait de publier des choses dont on sait qu'elles nuiront à la personne qu'elles visent. Mais c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment l'archétype de l'affaire MeToo, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a expliqué au tribunal, c'est que évidemment qu'on n'a absolument pas la prétention à se substituer à une quelconque instance de jugement, mais le choix qu'on avait nous, il était assez simple. C'est soit on publiait ce texte parce que ça nous paraissait important à la fois du point de vue du débat public par rapport aux propos que porte le jeune homme et par rapport à l'avertissement que les jeunes femmes tenaient à émettre, soit on le publiait, soit on leur disait bah non, en fait on ne veut pas que vous ayez la parole et donc on ne le publiait pas. Mais en gros, l'espèce d'équilibrage un peu impossible, c'est que, enfin, c'est ce qu'on a dit au tribunal. C'est-à-dire qu'on sait que, ça c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, 98% des femmes qui subissent des agressions sexuelles ne déposent pas plainte. On peut le regretter, on peut se demander pour quelles raisons, etc. Mais ça c'est un fait, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2024. Donc, c'est une chose, les femmes ne déposent pas plainte quand elles ont été agressées sexuellement dans leur énorme majorité, plus que dans leur quasi-totalité. Donc ça, c'est un truc. Et donc, à partir de là, soit on se dit la condition pour avoir le droit de dire « j'ai été agressé, j'ai été violé, etc. », c'est d'avoir déposé plainte, auquel cas, il n'y a que 2% des femmes qui ont le droit de dire ce qu'elles ont vécu. Ou alors on se dit, on ne peut pas dire tu n'as pas le droit de dénoncer tel ou tel fait tant que tu n'es pas passé par la case police et justice, dans la mesure où on sait que les gens ne passent pas par la case, très majoritairement ne passent pas par la case police justice. Et donc, on est dans cet entre-deux où, la question, c'est la libération de la parole des femmes. Et donc, soit on dit, on joue le jeu de cette libération avec évidemment tous les risques qu'on peut imaginer, que les gens se trompent, que de pauvres hommes soient accusés à tort, ce qui jusqu'à présent a été a priori relativement rarissime, soit on se dit c'est gênant en fait de dénoncer publiquement que telle ou telle personne aurait fait ceci ou fait cela, mais c'est une nécessité dans la libération de la parole des femmes. Et donc ce qu'on a dit, c'est qu'en fait nous on ne pouvait pas ne pas le publier, et donc on l'a publié, et voilà.
Et il n'y a pas encore eu le verdict?
Non, ouais, le verdict, c'est fin novembre, je crois. Et oui, l'avocate de la partie adverse, du jeune homme, nous réclame 20 000 euros de dommages et intérêts. Ça, c'est quand même significatif.
Donc là, ce qu'on voit aussi à travers les procès, c'est que pour lundi matin, ça demande énormément de temps, de travail, de suivi des dossiers. Ça demande des avocats. Donc également, il faut financer les avocats sans savoir justement quel va être le verdict. Donc c'est aussi une manière un peu de vous détourner de votre travail et de, comment dire, c'est ce qu'on appelle un peu les procès bâillons également. C'est chercher à vous faire taire par des procédures judiciaires.
C'est complètement ça. Alors, c'est-à-dire que j'ai envie de dire par chance quelque part, ce qui est intéressant dans ces deux plaintes, c'est que elles ont un vrai intérêt politique. Elles posent des questions politiques qui nous paraissent importantes, etc. Donc ça ne dérange pas d'y passer un peu de temps, mais c'est effectivement très très chronophage. Les procédures en diffamation, c'est vraiment c'est le droit de la presse. C'est vraiment un droit qui est très technique. C'est vraiment pas une question de bon sens, de bonne volonté. C'est vraiment faut démontrer tel point, tel. Il y a très peu d'avocats qui sont fortiches là-dedans. Vu qu'ils sont très peu, ils demandent en général pas mal d'argent. Vu qu'en plus c'est toujours des dommages d'intérêt assez conséquents. C'est très chronophage et ça coûte de l'argent. Et en cas de condamnation, ça coûte évidemment aussi de l'argent. Et donc et c'est sûr que par exemple dans la procédure pour avec Chartier d'Alix là pour les architectes, je sais que le l'auteur de l'article, à plein de moments, il disait « Ah merde, quand même, c'est chiant d'être là-dedans, peut-être qu'on devrait retirer l'article, peut-être qu'on devait retirer l'article. » Alors nous, on lui disait « Ah non, 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 pas du tout. » Enfin, on l'incitait, on lui a toujours dit que c'était lui qui avait le dernier mot parce que c'était son article, mais nous, on l'a incité à ne surtout pas le retirer parce que si on commence à retirer des articles dès qu'on a la pétoche des emmerdes que ça amène, ça va pas. Et voilà. Mais c'est sûr que là, nous, en plus, les deux un peu en même temps, c'est enfin, ça prend vraiment du temps. Enfin, c'est chiant. Ce qui est notable quand on parle dans le truc avec Chartier d'Alix, c'est que eux, en fait, ils ont plein de thunes. Ils filent 20 000 balles à un avocat qui fait son truc. Eux, en fait, ils ont rien à perdre. C'est ça qui est, il y a vraiment un vrai déséquilibrage, c'est que le plaignant, bah au pire, il perd quoi. Au pire, ils sont genre oh bah non, c'est bon, ils sont relaxés. Alors que celui qui doit s'en défendre, il doit, en général, celui qui a le moins d'argent, il doit lui faire des pieds et des mains quoi. Donc c'est vraiment un truc chronophage quoi. Enfin, l'enjeu, c'est d'être chronophage et ils le savent quand même.
Ouais, mais c'est un peu ça, oui. On voit qu'ils épuisent un petit peu des petites rédactions, suivre un peu les procès Bayon, il n'y a pas très longtemps, là c'était le saxifrage à Albi, c'est pareil quoi, ça concernait un procès pour diffamation par rapport à un circuit de course automobile, donc ils ont gagné le procès, mais quand c'est que des bénévoles et qu'il y a des tout petits moyens financiers pour un média local, bah, c'est très 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 dur pour les membres du journal justement de suivre, de s'investir et puis de ne pas se retrouver avec, entre guillemets, le couteau économique sous la gorge, quoi.
Ça, c'est l'effet direct, mais l'effet indirect, c'est que je pense que le coup d'après, les gens, ils y réfléchissent à deux fois avant de publier un truc, parce qu'ils disent « Oh là là, est-ce qu'on a vraiment envie de se réembarquer dans tel truc, quoi ?»
Cette rentrée est d'ailleurs assez, assez importante en nombre de procès Bayon, hein, puisque le 16 octobre, il y a le procès de Lampaillé à Perpignan, également un procès pour diffamation. Il y a le Postillon également à Grenoble, qui est sous la menace d'un procès. Là, pour l'instant, on attend un petit peu des nouvelles. Pour le procès donc, qui vous lie à Chartier d'Alix, comment ça se passe là, si vous êtes en train de constituer les dossiers, vous avez déjà une date pour le procès?
Non, pas du tout. Alors c'est toujours très long et ça aussi c'est un peu chiant. C'est que en gros, en général, entre le dépôt de la plainte et le procès, il se passe 2 ans. Et ça c'est aussi un peu pénible parce que ça prend du temps et donc là l'enquête est ouverte etc, mais il y a en fait en diffamation il y a une instruction, mais l'instruction en fait elle consiste à peu près en rien, c'est-à-dire que je me permets juste d'expliquer un truc parce que les gens en général pigent pas trop. En fait les gens quand on parle de diffamation ils pensent que on va établir si un propos est diffamant ou non, or c'est pas le cas. Tout diffamer ça veut dire dire du mal de quelque chose. Si vous dites Bolloré est un pauvre type publiquement, c'est de la diffamation publique. Et donc le fait est quasi automatiquement qualifié. Après, l'audience, ce qu'elle va venir arbitrer, c'est pas est-ce que c'est de la diffamation ou non, mais c'est est-ce que vous aviez, est-ce qu'il était justifié que vous diffamiez ou pas. Et pour ça, il y a plus. Et donc, ce que vous demandez, c'est la relax. Vous dites pas j'ai pas diffamé, vous dites j'ai diffamé, mais j'avais. En gros, diffamé, il faut l'entendre comme j'ai dit du mal d'eux. J'ai dit une chose désagréable sur Chartier d'Alix, dire qu'ils font croire qu'ils font de l'écologie, des constructions écologiques alors que c'est pas le cas, ça leur nuit, etc. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on demande la relax parce que on pense qu'on a raison de dire ça, parce que on fait valoir notre bonne foi. Notre bonne foi, c'est qu'on a vérifié, qu'on s'y connaît, enfin que l'auteur s'y connaît en architecture et qu'il a pu établir que ta 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 ta. Et voilà. Et donc en fait, en diffamation, vous gagnez en diffamation, c'est seulement être relaxé. C'est pas dire c'était pas de la diffamation.
On va arriver à la fin de l'émission pour suivre, soit lundi matin. Je pense que le mieux, c'est d'aller sur le site
www.lundi.am et là, il y a tout.
On pourra certainement suivre un petit peu l'évolution de ces plaintes. Hein. Donc, fin novembre, c'est celle concernant, entre guillemets, le violeur potentiel. Celle sur Chartier d'Alix, on a compris que ça allait être plus long. Donc, rendez-vous sur lundi.am également pour s'inscrire à la lettre d'info et recevoir chaque début de semaine la lettre d'information de lundi matin.
Voilà, exactement.
C'est parfait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
À bientôt.
Allez, au revoir.
C'était les autres voix de la presse avec Mathieu pour lundi matin. À la semaine prochaine, d'ici là.
Où va se diriger ton stylo ?